Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Que la parole soit bénie.
Je pense qu'on conviendrait que le livre de l'Apocalypse est un des livres difficiles dans la parole de Dieu. Chose certaine, c'est qu'il y a un consensus assez large que de tous les chapitres difficiles dans l'Apocalypse, le chapitre 11 est le plus difficile. Et depuis plusieurs mois maintenant, j'étudie ce passage de nouveau, puis j'essaie de le comprendre. Et je réalise qu'il y a quelque chose ce matin qui est plus important que les détails de ce passage que nous allons regarder, l'interprétation détaillée de tous les détails. J'aimerais ça qu'on remette dans le contexte et qu'on se souvienne de ce qu'on a dit quand on a ouvert ce livre au début. L'apôtre Jean va bientôt mourir. Je crois que c'est écrit quelques 60 ou 65 ans après la mort de Jésus. Jean, quelque part entre 90 et 100 ans lorsqu'il écrit ce livre. Il a servi le Seigneur fidèlement, ça fait longtemps qu'il est le seul apôtre des 12 qui reste sur la terre. Il est en Asie mineure. Très bientôt, les grandes persécutions vont éclater. Il y en a eu, mais des pires s'en viennent. Et l'apôtre ici prépare le peuple de Dieu, donne l'espoir que devant les difficultés, Dieu est avec eux et qu'ils sont vainqueurs. Et donc, le plus important dans le livre de l'Apocalypse, mais n'oublions-le jamais, c'est de ne pas satisfaire notre curiosité par des menus détails, mais nous rappeler ce message que Dieu est avec nous et nous sommes vainqueurs. Okay? Rappelons-nous aujourd'hui dans notre étude. Maintenant, il me semble que dans les 14 versets que nous avons ici, il y a deux thèmes. Dans les deux premiers versets, il y a possession et protection. Et dans les versets 3 à 14, il est question de témoignage. Et c'est comme ça que nous allons diviser le passage. Commençons par ce concept de la possession. Nous avons le privilège d'avoir avec nous ce matin un notaire. Il était là tantôt, je le vois, il est là, je le vois. Si vous iriez voir Maître Poulain ce matin, même s'il n'est plus dans la pratique publique, et vous direz, j'aimerais avoir une liste de suggestions, une liste de choses qu'on doit faire avant d'acheter une maison. Je ne suis pas mal sûr que vous entendrez de sa part, arrangez-vous pour avoir un certificat de localisation. C'est-tu vrai ça, M. Poulain? Oui, je le sais parce qu'il me l'a souvent dit. Dernièrement, nous avons vécu avec, vous savez que l'Assemblée a fait l'acquisition de terrain ici à côté. Cette semaine, ils vont faire l'asphaltage. Ils me l'ont promis, s'il n'y a pas trop de pluie. On a eu un problème avec le voisin. Hein? Il avait volé 3 mètres de notre terrain, ou je ne sais pas combien exactement. C'est ça, 3 mètres, Stéphane? 3 mètres et demi. Tu as eu du plaisir? Comment tu as réglé ça? Certificat de localisation. Je me souviens que Stéphane a appelé le l'arpenteur et dit « Reviens, puis mettez-nous des poteaux. » C'est-tu ça que tu as fait? Mais oui, ça réglait bien des choses. Depuis tout le temps, l'acte de mesurer un terrain, bâtiment et tout cela, est un signe de possession. Dans le temps de l'Ancien Testament, lorsque un roi ou une nation s'emparait d'une autre nation, on mesurait, on disait que c'est à nous. Et ce symbole n'est pas unique dans l'Apocalypse. Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, nous avons Ézéchiel qui mesure le temple. Alors, le symbolisme ici, de mesurer, est un symbole de possession et de protection. Moi, j'ai j'ai un abri chez nous, pour un abri de voiture chez nous. Et un jour, j'aimerais ça fermer ça et faire un garage avec. T'sais? Mais moi, je n'ai pas été intelligent, je n'ai pas écouté mon ami Gilles, puis je n'ai pas de certificat de localisation. De sorte que je sais, même mon voisin m'a déjà suggéré que mon abri d'auto est sur son terrain. Ou bien c'est très proche de son terrain. Un jour, je vais trouver 400$, je vais le savoir. Parce que j'ai comme projet un jour de fermer pour que la neige couvre mon auto à tous les matins comme l'hiver passé. Alors, vous comprenez ce concept-là ici. L'ange dit à Jean, il donne un roseau. Ces roseaux existaient dans la vallée de Jourdain, particulièrement le Nil aussi. Ça pouvait être 10, 15 mètres de haut. C'était gros comme un peu comme ça, là. Et c'était vide à l'intérieur. Puis on les coupait, puis on les prenait pour mesurer. C'est un peu comme un bon Québécois, un gallon. Un Rubin mesuré aujourd'hui. C'est ça l'acte dont il est question ici. Puis on a dit à Jean, lève-toi, et peut-être qu'il était assis, puis il a dit, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Et si jusqu'à maintenant dans l'Apocalypse, l'autel dont il est question, c'était l'offel des parfums qui représentait la prière, ici, ce ne peut pas être cela, parce que c'est ceux qui y adorent. Alors, le temple des parfums était à la place sainte, à l'intérieur du tabernacle. Et seulement les sacrificateurs, allaient de temps en temps mettre l'encens, n'est-ce pas? Mais l'autel des offrandes brûlées était dans le parvis du tabernacle. Et là, le peuple de Dieu faisait leurs offrandes. Il est sans doute question de ça ici. Mais c'est indiqué, le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Il y a un concept ici que j'aimerais illustrer avec une illustration, si je peux. Je confesse, c'est en anglais, j'ai cherché 3 heures sur l'Internet, puis je ne suis pas un artiste, alors excusez l'anglais. Mais voici une représentation, je pense, du temple d'Hérode, qui existait du temps de Jésus, du temps de Jean. Si j'ai raison que l'Apocalypse a été écrit en 95 environ, le temple a été détruit en 70, ça faisait 25 ans que ça n'existait pas environ, mais quand même c'est le temple avec lequel Jean était familier. Et voici ce temple-là, il y avait plusieurs cours un peu concentriques. Okay? Aujourd'hui, ma petite-fille chez nous, Jenny, a amené un jus que ça fait des décennies que je n'ai pas vu. C'est une petite bille, puis c'est en plastique, puis il y a des ronds, puis des trous, puis il faut l'envoyer au centre. Là. Vous avez déjà vu ça, là? Ça a l'air que c'est revenu. Ils vendent ça au magasin Dollar. Puis elle voulait que je fasse ça, je n'ai pas été capable. Mais c'est un peu comme ça. Vous avez les murs extérieurs, puis vous avez le parvis des païens, okay? Ici à l'extérieur. Et les païens, les non-juifs, gentil, appelez-le comme vous voulez, avait le droit d'aller dans ce parvis-là, qui faisait un peu le tour, en tout cas les côtés et le devant du temple. Ils pouvaient se rendre là, mais ils ne pouvaient pas traverser ici. Puis il y avait une autre place qui était ici à l'intérieur, là, au début, c'était le parvis des femmes. Vous savez que dans le tabernacle que Dieu a fait dans le désert, il n'y avait ni parvis de païens, ni de parvis de femmes. Et il est dit l'idée que les hommes pouvaient aller plus loin vers la présence de Dieu que les femmes, là, c'était une invention de nos chers amis pharisiennes qui étaient un peu misogynes, qui méprisaient les femmes. Puis on n'a pas l'approbation de Dieu sur cela, mais c'est un fait qu'à l'intérieur, ici seulement les païens pouvaient rentrer, ici les juifs pouvaient rentrer, les femmes ici, mais les femmes ne pouvaient pas aller ici, seulement les hommes. Puis là, à l'intérieur, seulement les sacrificateurs. Puis à l'intérieur des intérieurs, la place très sainte, seulement le souverain sacrificateur une fois par année, là où avait l'arche de l'alliance avec les chérubins. Intéressant que dans le temps de Jésus, les Juifs ne pouvaient pas imposer la peine capitale. Ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort. Il fallait qu'ils demandent la permission des Romains. C'est pour ça qu'ils ont conduit Jésus vers Pilate, n'est-ce pas? Ils auraient voulu le tuer Jésus, ils n'osaient pas, il fallait qu'ils demandent la permission des Romains. Mais il y avait une exception. Ils avaient reçu la permission des Romains de mettre immédiatement à mort un païen, un non-juif, qui transverserait ici le mur de séparation ici, qui quittera le cours, la parvis des gentils pour rentrer dans le temple elle-même. Puis c'était la mort automatique. Puis vous avez l'évidence de cela dans le livre des Actes. Lorsqu'on a accusé Paul d'avoir amené, est-ce que c'est Tite ou Timothée avec lui, excusez, j'ai mal la mémoire, puis on dit c'est un païen, puis l'a amené dans le temple. Mais non, Paul l'avait circoncis avant, n'est-ce pas? Et ça, et négliger de s'informer, de toute façon, on cherche une excuse pour tuer Paul, puis on a presque tué pour cela. Alors, voilà cette idée du temple, de la parvis extérieure, dans le Apocalypse chapitre du temple. Nous sommes devant ici cette idée païenne que vous pouvez aller. Nous avons aussi dans ce passage un concept, je vais revenir pour essayer de donner. Qu'est-ce que je vais essayer de faire ce matin? C'est peut-être vous parler de très brièvement de différentes façons de comprendre le passage. Je crois que dans l'intégrité, je dois présenter ce que j'enseigne sur ce passage-là et qu'est-ce que l'Assemblée enseigne aussi, en étant tolérant envers autre position. Puis on voudrait en même temps faire des applications pratiques pour notre vie de tous les jours. Une autre difficulté dans ce passage, un autre défi, c'est les jours puis tout cela. Alors, si on pouvait aller à la prochaine cliché. Parce qu'il est question ici de deux périodes de temps. On nous dit que la parvis extérieure du temple ne doit pas être mesurée parce qu'elle est donnée aux nations. Et elles vont le fouler aux pieds pendant 42 mois. Puis au verset 3, il y a une autre période de temps qui est mentionnée, 1260 jours. Maintenant, vous allez m'excuser, vous êtes devant un comptable, donc je vais faire un peu de comptabilité. Alors, 42 mois, c'est... Ouais. L'animation, oui. OK. Merci. Il faut dire que une année égale 360 jours pour un juif. Souvenez-vous de votre petite école? Grès dans un cercle. 360. Pourquoi? La raison, c'est que nous comptons par 10. Eh? Je suis en train de demander à compter à mon petit-fils Jake. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, je compte sur mes doigts. Et là, on recommence. Puis on dit 11, 12, 13, 14. Puis là, on recommence 21, 22, 23, 31, 32, 33. Puis je me souviens quand Jenny, qui est maintenant 6 ans, puis qui sait tout, mais lorsqu'elle avait 3 ans, puis elle a compris qu'on recommençait à 20, puis 30, 40. Elle a dit, c'est facile, on recommence. J'ai dit oui. Alors, nous avons ce système basé sur 10. Les Babyloniennes, qui ont probablement inventé l'astrologie et l'astronomie, ont compté par 12. Puis quand on regarde le système mathématique, ils avaient 12 chiffres. Nous autres, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. On a 10 chiffres avec lesquels on fait tous les autres chiffres. Eux, il y avait 12 chiffres avec lesquels ils faisaient tous les autres chiffres. Alors, ils commentaient à 12, puis après ça, ils recommençaient. Vous le comprenez, là? Vous n'êtes pas bon en maths, mais excusez-moi. Et je n'ai pas besoin de vous dire que 360, ça se divise par 12, n'est-ce pas? Et pour les Babyloniennes, il y avait 12 mois de 30 jours. Et c'était un peu basé sur le mois lunaire, qui est 28 jours et quelque chose. Mais on sait que ça ne marche pas, parce qu'il y a 365 jours et une corps, n'est-ce pas? Puis nous sommes dans une année biseptile, c'est ça qu'on dit? J'ai l'habitude de dire bisexuel, mais ce n'est pas ça. Là, c'est je le dis souvent, là. Faut que je me fasse. C'est une de ces mots que j'ai de misère avec. 2008, on est le 29 février. Eh? On dit que si on peut diviser le mois par 4, l'année par 4, c'est une année biseptile, puis on est le 29 février, n'est-ce pas? Excepté le 2000, l'année 2000 n'en avait pas, parce que ce n'est pas tout à fait juste. Alors, c'est compliqué concorder la vitesse de la Terre qui tourne avec la vitesse de la Lune. tourne, puis la terre qui tourne autour de la mer, le soleil, tout ça, c'est difficile. Mais les Babyloniennes, et après c'est eux, les Juifs, qui ont été influencés par le Babylone, avaient des années de 360 jours. Puis ils avaient l'habitude, à tous les 5 ou 6 ans, de mettre un mois supplémentaire pour récupérer les 5 jours qu'ils avaient manqué chaque année. C'est. Puis quand on fait la chronologie de l'Ancien Testament, j'ai passé des belles heures à étudier cela. Il faut toujours regarder comment différents peuples ont réglé le problème, que ce n'est pas 360, c'est 365 et encore. Tout ça pour dire que pour ces personnes-là, et dans la parole de Dieu, c'est comme cela, une année, c'est 360 jours. Et donc, 42 mois, une année, c'est 12 mois. Puis 12 mois fois 3 ans et demi, c'est 42 mois, n'est-ce pas? Vous avez capté ça dans votre tête, vous, là? Hein? Quand j'étais jeune homme, j'étais une comptable, je me vantais de pouvoir prendre une colonne de 4 chiffres, puis faire ça avec, puis le déchaîner. Donc, avant qu'il existe, j'étais comptable avant qu'il existe des machines comme ça, hein? Mais plus aujourd'hui. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que 12 mois pour 3 ans et demi, ça fait 42 mois. Et que 360 jours pour 3 ans et demi, ça fait 1260 jours. Êtes-vous d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord, sortez-vous un papier et un crayon, on fait les calculs. Moi, je l'ai fait en Excel, alors je sais que c'est correct. Je ne fais plus de ça dans ma tête, je suis plus capable. Maintenant, ces périodes de temps s'accordent avec des choses dans l'Ancien Testament. Et nous allons prendre le temps de lire dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Dans le livre de Daniel, il y a question d'une sorte de bête qui représente des nations qui vont se succéder. Puis on lit en Daniel que de l'une des cornes d'une bête qui représentait, en effet, la Grèce, sortait une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Alors le midi, c'est le sud. Et à la sud de la Grèce et de la Syrie, c'est qui faisait partie de la Grèce à cette époque-là. Le Midi, c'est donc Israël. Vers l'Orient, vers l'Est, et vers le plus beau des pays. Et si c'est Daniel qui écrit ce livre-là, que pensez-vous était le plus beau des pays? Israël. Daniel était en Babylone en captivité, n'est-ce pas? Puis on ne peut pas lire Daniel, le livre Psaume 133, c'est à côté des fleuves de Babylone, nous avons suspendu nos harpes. Comment qu'on peut chanter des cantiques dans un pays loin, c'est, pour eux retourner dans leur pays? Alors, c'est Israël. Puis cette corne, qui représente, je crois, un homme, un roi, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle est fou là. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Service perpétuel. Dans le temple, il y avait toujours un sacrifice. Et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, sur mon ange. Et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévasteur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Puis on continue, s'il vous plaît, dans Daniel 9, 17. « Il... » Même personne, y faire une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, puis ce sont des semaines d'années, 7 ans, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, y faire cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que les ruines et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Daniel prévoit un moment où cela va arriver. Maintenant, c'est 42 mois, c'est 1260 jours. Il y a un homme qui s'appelait Antiochus Épiphane IV, qui était roi de la Syrie, qui a régné entre 175 et 64 avant Jésus-Christ. Vous savez qu'Alexandre le Grand a créé l'Empire grec, a conquis jusqu'à la Perse. Même les Romains n'ont pas réussi à faire cela. Et Alexandre est mort jeune, 32, 33 ans. Et il n'y avait personne pour le remplacer, puis son royaume a été divisé en quatre. Dans le sud de l'Égypte, puis un peu au milieu, il y avait la Syrie, qui était de culture grecque à 100%. Et parmi les rois qui se sont succédés là après la mort d'Alexandre, il y avait Antiochus Épiphane, on dit en latin, Antiochus Épiphane, quatrième du lignage. En 168 avant Jésus-Christ, il a fait des choses un peu extraordinaires. Par exemple, il a dit que celui qui se faisait circoncire, c'était la peine capitale. Imaginez-vous pour un juif qui est dans son pays et pour lequel la circoncision est le signe de l'alliance. On lui dit, si tu te fais circoncire ou si tu fais circoncire tes enfants ou si tu pratiques la circoncision, la peine capitale, on l'empêche de vivre sa foi, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Antiochus a fait. Il a aussi détruit beaucoup la ville de Jérusalem. En effet, Antiochus était en guerre avec l'Égypte. Puis entre l'Égypte, puis Israël, entre l'Égypte et la Syrie, quelle nation était là? Mais c'était Israël. T'sais? Puis à tous les fois qu'il passait pour se battre avec l'Égypte, ou l'Égypte se passait pour se battre avec lui, mais il a raté en Israël, puis Israël goûtait. Il goûtait. Puis à un moment donné, Antiochus est allé en Égypte, puis les Juifs ne l'aimaient pas. Puis on a entendu parler qu'il avait été tué dans une guerre avec l'Égypte, puis ils ont fait une grande fête dans la rue. Mais malheureusement pour eux, ce n'était pas vrai. Puis il a entendu parler de cela, puis il est revenu pas content des Juifs, puis voici qu'est-ce qu'il a fait. Beaucoup de la population a été tuée ou vendue comme esclave. Ce n'était pas la première ni la dernière fois que c'est arrivé aux Juifs. Il a sacrifié un porc sur l'autel. Et cela, c'est une abomination. Pour les Juifs, le porc est un animal impur. Et sacrifier un porc sur l'autel est une abomination qui suit le temple et qui empêche de faire le service du Seigneur. C'était la pire chose qu'il pouvait faire. D'ailleurs, Jésus appelle ça l'abomination des désolations. Puis, il a mis en place dans la ville l'adoration des idoles, prostitution religieuse, des processions avec l'ivresse et l'immoralité dans les rues. Il a imposé ça aux Juifs. Et suite à cela, si vous connaissez un petit peu l'histoire, qui a délivré Jérusalem et les Juifs d'Antiochus Épiphane? Qui les a livrés? Les Maccabées. Oui, Judas était le fils. C'est quoi le nom du père? Matthias, je pense. Je devrais le savoir. Je l'ai su ce matin, mais je vais l'oublier. Mais il y avait le père avec plusieurs fils qui se sont succédés. Et si vous lisez dans l'Apocryphe, dans la Bible catholique, ces livres sont là. Surtout, 1er Maccabée est assez juste historiquement. C'est très intéressant. Vous allez lire cette histoire-là. 2e Maccabée est beaucoup moins bien. Bon, alors, si on continue ici, là, nos 42 mois, 1260 jours, Jérusalem sera foulée aux pieds, donnée aux nations. Et Daniel nous parle d'une semaine, une période d'année de 7 ans, quand Dieu va permettre à la persécution de purifier son peuple, les Juifs, et de les pousser à la repentance. Chers amis, je pense qu'il y a deux nuances qu'il faut faire ici. Dieu n'a pas terminé avec son peuple, les Juifs. Le jour va venir quand les Juifs vont se repentir comme nation. Puis ils vont bénéficier de nouveau des merveilleuses choses que Dieu leur a promis. Mais l'autre extrême, c'est que des fois les chrétiennes regardent ce qui se passe en Israël, puis ils pensent que les Juifs ont raison dans tout ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le cas. Écoute bien là, parmi les pires athées, les personnes, tu sais, Freud était juif, hein? Karl Marx, puis Lénine aussi, vous comprenez là. Et moi, je ne veux pas jouer beaucoup dans la politique ce matin, mais j'aimerais vous suggérer que beaucoup de mal qui existe sur la terre, puis je suis pro-Israël, puis je suis pro-juif, puis je crois que les Juifs sont le peuple de Dieu, puis il y a un avenir pour les Juifs dans le plan de Dieu, mais ce n'est pas aujourd'hui. Puis ce qu'on voit en Israël aujourd'hui, ce n'est pas un peuple qui a le cœur pour Dieu. D'ailleurs, est-ce que c'est la semaine passée ou la semaine avant que des leaders juifs ont brûlé 300 Nouveaux Testaments en public, hein? En Israël. Hein? Je veux dire qu'ils n'aiment pas les chrétiens trop. Et Alors, il ne faut pas identifier tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël comme étant un peuple de Dieu, parce que ce n'est pas le cas. Ils ont le cœur dur. La majorité sont athées, qui sont juifs culturellement, mais n'ont pas un cœur pour Dieu. Moi, je crois que nous sommes d'ici, puis je réalise qu'on peut ne pas être d'accord, mais je crois que cette grande tribulation qui s'en vient, qui dure pendant 3 ans et demi, que nous sommes maintenant à la fin de la tribulation, quand l'Antichrist va s'attaquer aux Juifs. Un mot que j'aimerais vous dire ici, parce que ça revient plusieurs fois, puis c'est la première fois dans l'Apocalypse qu'on le voit. C'est au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. C'est qui cette bête-là? Sans aller en trop de détails, parce que, revu au chapitre 13, on va avoir le temps d'en parler peut-être, mais, certainement, mais les bêtes dans l'Ancien Testament, dans la prophétie de l'Ancien Testament, particulièrement en Daniel, puis on ne peut pas séparer l'Apocalypse 11 avec Daniel, il faut les comprendre ensemble. La bête est toujours un symbole d'une puissance politique. Il y a des bêtes dans Daniel, il y a un bouc, il y a un ours, les Mèdes et les Perses, il y a Léopard, Alexandre. Il y a ces bêtes qui représentent des nations païennes qui contrôlent pendant un certain temps le Moyen-Orient, toute cette région autour d'Israël. Et il faut comprendre le mot « bête » ici comme une puissance politique. Pas le diable, mais un de ses amis. On va laisser ça là, puis on va revenir pour faire des applications de ce passage tantôt. Deuxièmement, nous avons les témoins de Dieu. Puis je pense qu'il faut lire Zacharie pour comprendre ce passage, Zacharie chapitre 3, si je me souviens bien. Mais remarquons quelque chose sur ces témoins. D'abord, ils prophétisent. Nous vivons dans un monde évangélique où beaucoup de personnes pensent que la prophétie, c'est toujours prédire l'avenir. OK? Excuse. Et j'aimerais vous affirmer avec beaucoup de conviction que prophétie, même dans l'Ancien Testament, des fois, c'était prédire l'avenir, mais quelque part vers 95% de prophétie, c'était de proclamer la vérité de Dieu dans une situation donnée. Okay? Alors, ces prophètes, ces témoins ici qui prophétisent, ça ne veut pas dire qu'ils prédisent l'avenir, mais plutôt qu'ils... Puis nous avons déjà eu dans notre assemblée de monde vivant, un homme qui se levait le table du Seigneur puis disait, « Moi, je suis un des deux témoins. » Tu te souviens tout ça, Boris? Tu es à peu près le seul ici, Suzanne aussi, tu te souviens de ça, là? Oui. Puis il y avait un autre qui se levait, dit, non, c'est moi! Tu te souviens de tout ça? Ah, oh, c'était pas beau, ouais. Oh, oui. C'était pas beau dans ce temps-là. On avait réglé. Une chance, vous n'étiez pas là. Mais ça nous montre jusqu'à quelle folie qu'on peut aller lorsqu'on exagère ces passages. Puis on va essayer de ne pas faire ça ce matin. Un prophète, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui prédit l'avenir. Regarde le ministère de Jérémie puis Ésaïe. Pendant quelques versets, ils vont prédire l'avenir, mais pendant la majorité de leur ministère, ils annoncent la parole de Dieu puis l'appliquent. Puis même leurs prophéties sont basées sur le Pentateuch. Bon, où suis-je? Oui, je suis ici. Remarquez bien qu'ils sont revêtus de sacs. Moi, j'apprécie énormément cela. J'espère que ça ne nous fait pas de joie d'annoncer à quelqu'un le malheur. J'espère, tu sais, le sac, on mettait ça lorsqu'on était repentant. On mettait ça lorsqu'on était dans le deuil. On mettait ça pour prouver qu'on regrettait vraiment ses péchés. Et je pense que lorsque nous sommes dans une position d'autorité, même comme parents, au travail, ici dans l'église locale, lorsque nous sommes obligés de prendre position avec quelqu'un qui a cette attitude de ces deux témoins, remarquez que Dieu les équipe, Dieu leur donne le pouvoir. Je donnerai mes deux témoins au verset 3, le pouvoir de prophétiser. Ce pouvoir-là vient de Dieu. Et des fois, Dieu peut vous donner quelque chose de difficile à faire. Mais des fois, on a la tendance de voir, je le trouve en moi, quand j'ai quelque chose de difficile à faire, j'ai envie de quelqu'un chez moi, loin m'attend, que je n'ai jamais rencontré, puisse mourir pour que je puisse partir pour une semaine et pas être obligé de le faire. Mais tu me comprends-tu? On n'aime pas ça faire des choses difficiles. Mais dans le passage ici, c'est encore encourageant de voir que Dieu donne le pouvoir. Remarquez bien qu'ils sont la lumière de Dieu. Nous avons ces deux chandeliers. Et sans aller dans toute la typologie que ça peut représenter, n'oublions pas que les chandeliers avaient de l'huile, souvent l'huile d'olive, à l'intérieur qui brûlait puis éclairait. Et la pensée de ces chandeliers-là, aujourd'hui, c'est pour décorer, n'est-ce pas? Dans ce temps-là, c'était le seul moyen d'éclairer. Et c'est, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous, vous êtes la lumière du monde. Et si vous n'éclairez pas, personne ne va éclairer. Alors, ils sont la lumière de Dieu. Remarquez bien que Dieu leur protège jusqu'à ce qu'ils terminent leur travail. Il est en contrôle. On essaie de les attaquer. On ne peut pas les attaquer parce qu'ils ont un ministère à faire ici. Remarquez, qui sont-ils? Qui qu'ils sont? Bien, il y a différentes interprétations. Cette semaine, j'ai même lu un petit peu le livre de Mary Ellen White, qui a fondé les Adventistes du septième jour. Et eux autres, ils prennent les 1260 jours, ils font des merveilles avec. Ils partent avec un des papes, qu'ils pensent que c'était un des premiers papes, puis qui n'était pas bon. Puis là, ils calculent ça jusqu'à 1800, je ne sais pas quand, 1848 ou quelque chose comme ça. Puis là, ils disent, à ce jour-là, Jésus est revenu. Puis effectivement, les témoins de Jéhovah, les Adventistes du septième jour, sous Mary Ellen White, se sont mis dans une montagne cette année-là, pendant les 1800, pour entendre le retour du Seigneur. Parce qu'il avait calculé avec les 1260 jours que Jésus devrait revenir ce jour-là. Puis quand Jésus n'était pas venu, ils avaient l'air, mais je ne le dirai pas là, mais ils avaient la face rouge un peu. Ils étaient gênés. Puis ils avaient raison d'être gênés. Surtout que la Bible nous défend de prédire le retour du Seigneur, n'est-ce pas? Moi, je suis toujours scandalisé quand des personnes qui sont supposées être connaissant les Écritures prédisent que Jésus va revenir telle date puis telle date. Puis, en tout cas. Là, Mary Ellen White, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, oh, je me suis trompé. Jésus, cette date-là, est entré dans le sanctuaire pour confesser le péché de son peuple. Et depuis ce temps-là, il confesse le péché du peuple pour nous sauver. Puis quand il aura fini de confesser les péchés, là, il va pouvoir revenir. Ça, c'est la doctrine des Adventistes du septième jour. Puis il y a beaucoup, mais c'est leur doctrine. Hein? C'est un peu comme les témoins de Jéhovah qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils croient vraiment. Je donne ça comme exemple, pas pour rire de ces personnes-là, mais pour vous donner un exemple des folies qui peuvent arriver lorsque nous regardons ça, puis nous essayons d'interpréter de n'importe quelle façon. Bon, une des interprétations un peu plus raisonnables, c'est que c'est l'Église qui témoigne ces deux témoins-là. C'est pas comme ça que je le comprends, mais c'est quand même respectable, beaucoup plus respectable que 1260 ans qui termine en 1848 sur une montagne, plein du monde qui sont gênés. Dans nos milieux, beaucoup de personnes pensent que c'est la réincarnation d'Élie puis Moïse ou Enoch. J'ai des misères avec ça, là. C'est parce que je ne suis pas bouddhiste, je suis chrétien. Mais un chrétien ne croit pas à la réincarnation. Pensez-y un petit peu. Est-ce que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie le prophète? Est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était Élie qui devait venir? Oui. Donc, il est venu dans l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Il est venu avec un ministère semblable à Élie. Il n'était pas Élie. Non. Et c'est pour ça que je crois que ce sont ici deux hommes fidèles qui témoignent avec la force et dans l'esprit d'Élie et Moïse. C'est sûr qu'il y a des ressemblances. On a le feu qui détruit ceux qui les attaquent. Mais ça, c'est Élie, tout cru, ça. Vous vous souvenez de l'histoire quand le roi d'Israël a envoyé des hommes chercher Élie sur une petite montagne, là, puis Élie les a détruits par le feu, puis je pense que c'est arrivé deux fois. Puis la troisième fois, le gars est arrivé, puis il était plus respectueux. Puis Élie l'a suivi pour aller voir le roi. Hein. Ça, c'est vraiment typique d'Élie. Fermer le ciel puis faire cesser la pluie, qui a fait ça dans l'Ancien Testament? Élie. Qui a changé l'eau en sang? Moïse. Qui a frappé la terre de toute espèce de plaie? Mais oui, OK. Alors quand même, ces deux, certains vont dire aussi que ça parle des prophètes. Oh, OK, ça représente cela. Mais moi, je ne crois pas que ce soit Élie et Moïse qui sont réincarnés. Puis quand vous dites ça, vous ouvrez à toutes sortes d'impossibilités, je crois. Remarquez bien que ces témoins sont terminés, sont tués quand leur ministère est terminé. Le mot terminé, c'est le mot tel eo. Telos, vous connaissez peut-être ce mot-là. Puis, dans le grec, c'est un temps parfait. Dans le sens que leur ministère est terminé, mais qu'il y a encore des effets qui continuent. Puis, leurs corps sont exposés 3 jours et demi. Chez nous, c'est coutume. N'est-ce pas? Il faut se mettre dans les souliers d'un juif. Aujourd'hui, quand quelqu'un en Israël ou bien en Arabie Saoudite est tué, combien de temps avant qu'ils sont enterrés? Même jour. Ça presse. Ça presse. Il y a des raisons pour cela. Il fait plus chaud qu'à part ici. Puis, ils sont plus intelligents que nous, puis ils ne se font pas embaumer, puis ils ne dépensent pas 10 000 $ chez le... Ben, en effet, lisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'exposer des corps sans les enterrer, c'était vraiment une désécration. C'était un mépris envers ces personnes-là. Vous me suivez, là? Regarde quand Saul a été tué, là, David, par respect, est allé chercher son corps puis l'enterrer. Hein? Et regarde comment c'était important pour les disciples d'enterrer Jésus. Ils n'ont pas embaumé pour le garder, pour l'enterrer lundi, là, ils l'ont enterré vendredi soir, n'est-ce pas? Alors, cette idée d'exposer le corps pendant 3 jours et demi, c'est vraiment mépris. Puis, leurs ennemis se sont réjouis. Quand j'étais petit gars, je lisais ce passage-là, j'ai dit, comment que toute la terre peut voir ces personnes-là, puis se réjouir qu'ils sont morts? Aujourd'hui, avec l'Internet puis la télévision, mais on peut comprendre un petit peu plus comment ça serait possible. Puis moi, je ne veux pas donner des détails comme cela, mais simplement que c'est possible que tout le monde voit puis se réjouit. Puis on dit qu'ils finissent par être ressuscités. Et les hommes voient cela. Puis un tremblement de terre détruit le 10e de Jérusalem. Puis 7000 hommes. Et très remarquable qu'au verset... il y a quelque chose de remarquable. À la fin du verset 13, les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Souvenez-vous quand il y a eu d'autres plaies, les sauts et les trompettes, que les hommes se sont cachés et ont dit « Rocher, tombez sur nous ». Dans un autre passage, on a dit qu'ils ont refusé de se repentir. Mais ici, quelque chose d'extraordinaire arrive. Il y a quelque part un début de repentance. Maintenant, fais attention avec ce terme et donnez gloire au Dieu du ciel. Si ma mémoire est bonne, Achan, Josué a dit à Achan, confessez-vous puis donnez gloire à Dieu, n'est-ce pas? Puis Achan s'est confessé puis ils l'ont lapidé. Alors, le fait qu'il ait donné gloire à Dieu n'est pas une preuve qu'il a été sauvé, ni qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans sa vie, nécessairement, dans leur vie nécessairement, mais c'est toujours un début, au moins. J'aimerais ça faire une conclusion des applications. D'abord, j'aimerais vous dire que Dieu est en contrôle même si ça va mal. Quand on interprète ce passage comme on veut, ce passage nous parle des temps difficiles. Moi, je crois que c'est en l'avenir. Si vous croyez que c'est toujours comme ça depuis le début, ou vous voulez que ce soit historique, OK, allez-y. Mais il y a une vérité ici qu'on ressort qui est importante. C'est que Dieu est en contrôle, même quand ça va mal. Puis moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a des personnes ici où que ça va mal, qui sont dans la difficulté. Parce que la vie est ainsi faite. Puis j'ai une promesse à vous faire, je ne suis pas un prophète, ni le fils d'un prophète, puis je ne voudrais pas être lapidé parce que dans la Bible, les prophètes qui disaient des choses qui n'étaient pas vraies, ça faisait lapider. Mais j'aimerais vous prédire que si ça va bien aujourd'hui, puis si ça n'a jamais été mal dans ta vie, bien, attends 3 ans. À un moment donné, ça va aller mal. La vie est faite comme ça. Vous allez passer des temps difficiles. Puis moi, je sais qu'il y a des personnes ici dans l'Assemblée que ça va mal. Puis je sais que des fois, quand ça va mal, on est dans une situation où on n'a presque plus d'espoir. Puis on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, puis on a l'impression qu'on n'a pas d'espoir. Vous me suivez? Ça peut arriver, cela. Dieu est en contrôle ici. Dieu donne la verge. Dieu dit, lève-toi, mesure, ça m'appartient. Remarquez aussi que Dieu aura toujours ses témoins. Je suis une personne qui aime l'histoire de l'Église. Il y a une fait que je n'ai jamais pu vérifier. Il semblerait que quand Marco Polo a visité la Chine, le premier Européen a visité la Chine, qu'il a trouvé des communautés de chrétiennes partout en Chine. Hein? On parle avant Christophe Colomb, celui-là. Une des belles choses qui va arriver au ciel, c'est qu'on va voir du monde au ciel, puis on va dire, vous ne savez pas qu'il y avait des chrétiennes là, à cette époque-là. Hein? Puis plus que je lis l'histoire de l'Église, je vois que notre Dieu n'est pas limité. Mais Dieu même dans ces circonstances-ci, il a ses témoins. Remarquez bien que ces serviteurs de Dieu finissent par mourir, mais ils ne meurent pas avant le moment que Dieu aura décidé. Quand j'étais en Afrique au mois de janvier, dans un petit avion, puis on commençait à atterrir sur une piste d'atterrissage qui était faite en gazon bossé, et il y avait une grosse tempête de pluie qui commençait, là. Je me suis dit, ouais, mais j'enseignerai pas mes cours. Là, je réalisais, puis c'est facile à dire après. Hein? Non, je vais mourir quand Dieu va décider que je vais mourir. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sauter en bas du pont. Jésus n'a pas sauté en bas du temple, n'est-ce pas? Il a dit, il ne faut pas tenter le Seigneur notre Dieu, on n'est pas mieux que lui. On ne fait pas des folies, mais on ne tente pas Dieu. Mais on a confiance en Dieu. Puis, peut-être que vous êtes dans la circonstance que vous êtes, vous avez à faire des choses difficiles pour Dieu. Ces deux témoins-là, là, interprète-le comme vous le voulez, là, mais c'est difficile qu'est-ce qu'ils avaient à faire. Et si j'ai raison de mon interprétation, ils sont pas mal seuls dans la ville de Jérusalem à se battre contre de l'infidélité répandue toute part, et chez les Juifs, et chez les païens. Mais c'est Dieu qui a décidé quand leur ministère était fini. Puis ils sont morts, puis ils sont rentrés dans la présence de Dieu, leur esprit toujours, au moment que leur ministère était terminé. Chers amis, faites la volonté de Dieu. Faites-la avec sagesse. Faites pas exprès pour vous persécuter. Il y en a qui font exprès, puis c'est par leur faute, hein? Mais faites qu'est-ce qui est correct à faire. Et faites confiance au Seigneur. Enfin, je vais des questions à vous poser. Êtes-vous témoin? C'est vrai que Dieu a toujours ses témoins, mais êtes-vous témoin? Êtes-vous témoin? Êtes-vous fidèle pour annoncer la message de Dieu, même quand c'est difficile? Aujourd'hui, si vous allez dire à quelqu'un, « Hey, j'ai décidé de devenir bouddhiste », et j'ai fait la méditation transcendantale, on m'a dit, oh, ouais, on est correct, là. T'sais? Mais si tu te parles de Jésus, là, vous allez faire rire de vous, n'est-ce pas? Hein? Êtes-vous convaincu que Dieu te donnera le pouvoir d'annoncer son message? Je me souviens la première fois que j'ai prêché dans une prison à Woodstock, au Nouveau-Brunswick. J'étais petit dans mes culottes. Puis je l'étais vraiment, là, si vous avez vu des photos de moi quand j'avais 20 ans, là, je pesais quelque part entre 125 et 130 livres à cette époque-là. Environ la moitié de ce que je pèse maintenant. J'étais petit dans mes culottes, pas mal. Qu'est-ce que j'avais à dire à ces hommes durs-là, qui claquaient là, avec leur coupe, puis faisaient du bruit, puis riaient de nous autres. Puis, Mais Dieu m'a donné le pouvoir d'annoncer son message. C'est aussi simple que cela. Puis il ne faut pas avoir peur de se fier, de compter sur la puissance de Dieu. Êtes-vous convaincu que Dieu te protégera? Hein? Au travail, dans votre voisinage, Va pas sur le parterre de votre voisin pour prêcher l'Évangile à haute voix dans tous les voisins. Là. Non. Fais pas de niaiseux, là. Hein? Mais si vous annoncez la parole de Dieu, Dieu va vous protéger. Puis je pose la dernière question. Êtes-vous prêt à mourir si nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu? Êtes-vous prêt à mourir? Le temps est parti. On peut parler d'hommes qui sont allés pour annoncer la parole de Dieu dans des pays qui sont morts dans la première semaine qu'ils sont arrivés. Puis on dit, quel gaspillage. Non. Dieu savait qu'est-ce qu'il faisait. J'ai dans mon cœur des cœurs une profonde conviction que le moment est arrivé où le Seigneur va appeler des gens ici pour le servir outre-mer. C'est dans mes prières constamment. C'est rendu une obsession avec moi. Vous allez m'excuser. Mais c'est comme cela. Puis je sais qu'il y a des personnes qui peuvent penser, « Oh, mais je voudrais aller servir le Seigneur quelque part, mais j'ai peur. » Peur de mourir. Mais j'ai une petite nouvelle pour vous. Vous allez mourir un jour. Hein? Moi, je vais mourir un jour, probablement plus vite que vous autres, là. Hein? Vous allez mourir un jour. Puis c'est vrai que la mort est un ennemi. Puis c'est vrai qu'on a peur de la mort. Je me souviens du père de Maurice là, et de Suzanne, qui est un homme de Dieu. Puis il nous disait, j'ai pas peur de mourir. Hein? Mais te souviens-tu quand il y avait l'emphysème, puis il avait misère à respirer, Florence, l'oxygène! Florence, l'oxygène! Il était prêt à mourir, mais en extrémiste, il voulait vivre. Puis on est tous pareils. On est tous pareils, il n'y a personne qui veut mourir. Personne. Mes chers amis, d'abord, si le Seigneur vous appelle pour le servir dans des places difficiles, il va prendre soin de vous. Puis deuxièmement, si vous mourrez dans une place difficile pour le service du Seigneur, mais de toute façon, vous avez simplement avancé le moment où vous allez être dans sa présence. Hein? Moi, j'essaie d'y penser comme cela. Êtes-vous prêt à mourir si nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu? Bien, nous avons terminé ces 14 versets, beaucoup de choses qu'on aurait pu le dire. Rappelez-vous au moins de ces leçons-là. Vous êtes sous la protection de Dieu, vous appartenez à Dieu. À moi, dit l'Éternel. Hein? Puis vous êtes le témoin de Dieu. Hein? J'espère que vous êtes fidèle témoin. Seigneur, maintenant, sépare-nous avec ta bénédiction. Parle à nos cœurs. Nous le trouvons difficile de témoigner pour toi. Sois avec Julienne, samedi prochain, qui va donner son témoignage au déjeuner de l'espoir. Il utilise son témoignage pour attirer des gens à toi. Aide-nous en notre travail, dans nos voisinages, avec nos amis, avec nos familles, d'être de fidèles témoins, d'être prêts à payer le prix. Seigneur, ici au Québec, on n'a pas peur de mourir. Mais des fois, on a peur juste d'être critiqué ou qu'on rise de nous. Donne-nous le courage, Seigneur. Nous demandons au nom de Jésus. Amen.